Au terme de notre forum, qui a été, nous en sommes convaincus, très riche, et qui a permis de développer nos deux forums précédents. Et nous voulons conclure avec Benoît XVI, qui, par ses paroles douces et fermes, éclaire les hommes en ce temps de dictature du relativisme pour les aider dans le combat actuel pour la vérité. Notre Saint-Père a une riche expérience de professeur d'université, de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et de pape. Donc, d'abord, je voudrais vous citer ce témoignage personnel émouvant de Benoît XVI sur le jour de son ordination sacerdotale. Ce témoignage, il a donné il y a 2 ans, le jeudi saint 2009. Et ce témoignage nous fait découvrir que le combat pour la vérité, Benoît XVI s'y est senti appelé par Jésus au moment de son ordination sacerdotale. Il dit ceci. « À la veille de mon ordination sacerdotale, j'ai ouvert la Sainte Écriture parce que je voulais recevoir encore une parole du Seigneur pour ce jour et pour mon chemin à venir en tant que prêtre. Mon regard est tombé sur ce passage. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. J'ai su alors, le Seigneur est en train de parler de moi, et il est en train de me parler. Le bain dans lequel le Christ nous immerge, c'est lui-même la vérité en personne. Ordination sacerdotale signifie être plongé en lui dans la vérité. J'appartiens d'une façon nouvelle à lui et ainsi aux autres, afin que son règne vienne. » Avec notre Saint-Père, au terme de ce forum, demandons la grâce d'être immergés en Jésus, vérité en personne. Deuxième petit développement, la recherche de la vérité dans son parcours de théologien et dans sa mission de pasteur. Dans son parcours de théologien et de pasteur, Joseph Ratzinger a toujours cherché à être fidèle à sa mission d'homme de Dieu, d'homme de vérité, d'homme d'amour. On peut sans se tromper lui appliquer ce qu'il a écrit à la demande de Jean-Paul II dans l'instruction Dominus Iesus en l'an 2000, parce que ce texte révèle vraiment sa passion pour la vérité. L'Église, écrivait-il, guidée par la charité et le respect de la liberté, doit en premier lieu annoncer à tous la vérité définitivement révélée par le Seigneur et proclamer la nécessité pour participer pleinement à la communion avec Dieu le Père, Fils et Esprit Saint de la conversion à Jésus-Christ et de l'adhésion à l'Église par le baptême et les autres sacrements. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèles. La conclusion de Dominus Iesus est très importante pour notre forum. La révélation du Christ, disait encore Joseph Ratzinger, continuera d'être dans l'histoire, la vraie étoile sur laquelle s'oriente toute l'humanité. La vérité qui est le Christ s'impose comme une autorité universelle. Le mystère chrétien dépasse en effet toute limite d'espace et de temps. Il réalise l'unité de la famille humaine. Comprenons-nous en profondeur ce que le cardinal Joseph Ratzinger voulait affirmer. La vérité pour laquelle Joseph Ratzinger donne sa vie est une personne, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Notre Saint-Père ne craint pas le dialogue avec les autres religions et avec tous les hommes de bonne volonté, à condition qu'ils soient en recherche de la vérité. Et la vérité, pour Benoît XVI, est une, elle s'impose par sa réalité elle-même de vérité, qui est l'autorité universelle. Troisième point. Le thème de la vérité dans plusieurs importants discours de Benoît XVI en tant que pape. Donc j'en développerai quatre. Premièrement, le voyage apostolique de Benoît XVI aux États-Unis. Avant de donner quelques extraits de ce voyage, il est important de revoir l'homélie de la messe d'ouverture de son pontificat. Ce jour-là, Benoît XVI a demandé le soutien de la prière de tous les fidèles pour ne pas fuir devant les loups. Il était conscient, en effet, du combat pour la vérité qu'il devrait mener. Il savait que Pilate n'avait pas eu le courage de la vérité, mais que les saints Jean-Baptiste, John Fisher et Thomas More avaient été martyrs pour la vérité. Nous avons donc besoin de la prière de nos frères et sœurs chrétiens pour être de courageux témoins de la vérité. Si le pape a demandé la prière de tous les chrétiens, nous devons nous aussi demander la prière de nos frères et sœurs. Alors, le voyage apostolique de Benoît XVI aux États-Unis a été particulièrement important. Tous ces voyages ont été importants. Mais ce voyage aux États-Unis a été un succès extraordinaire, comme en Grande-Bretagne. Au cours de ce voyage, en 2008, il déclarait aux universitaires « Nous sommes certains de ce que le mystère de l'homme ne s'explique que dans le mystère du Verbe incarné. Mais acceptons-nous la vérité révélée par le Christ ? La foi est-elle tangible dans nos universités et écoles ? La crise de vérité actuelle vient de la crise de la foi. Or, c'est par la foi seule que l'on peut répondre à l'appel de Dieu et le reconnaître comme le garant de sa propre vérité révélée. On ne saurait trouver la liberté en s'éloignant de Dieu. » Donc c'était un discours très ferme, hein, donné aux universitaires aux États-Unis. Benoît XVI disait encore que l'Église devait œuvrer pour que l'humanité parvienne à la vérité-réalité. Hein, vous voyez, vérité-réalité, c'est-à-dire ce n'est pas une idée. Afin que la raison soit purifiée et ouverte à la perspective des fins dernières. Il demandait aux enseignants chrétiens de protéger les jeunes du positivisme et de ses limites qui compromettent la perception de la vérité, de Dieu et de sa bonté. Ainsi, disait-il, les aidera-t-on à la formation d'une conscience qui, enrichie par la foi, ouvre le chemin de la paix intérieure et du respect d'autrui. Lorsqu'on ne reconnaît rien comme d'absolu au-dessus de la personne, le « moi » devient le seul critère d'appréciation et de satisfaction de désirs fugaces. Notre pape a mis en garde contre l'infidélité à la vérité. En appelant au principe de la liberté académique, pour justifier des positions opposées à la foi et à l'enseignement de l'Église, constituerait un obstacle et même une trahison de l'identité et de la mission de l'université catholique. L'identité catholique est affaiblie et au lieu de faire avancer la liberté, on va inévitablement vers la confusion morale, intellectuelle et spirituelle. Ce discours ne s'adresse pas seulement qu'aux Américains. Avec les jeunes Américains, Benoît XVI est encore revenu sur le thème de la vérité. La manipulation de la vérité dénature notre perception de la réalité et trouble notre imagination et nos aspirations. Souvent, la liberté est revendiquée sans qu'il ne soit jamais fait référence à la vérité de la personne humaine. Cela s'appelle le relativisme. Je pense qu'on en a beaucoup parlé pendant cette session, ce forum du relativisme. On ne peut pas être plus clair ni plus convaincu du lien entre conscience morale et vérité. Le voyage apostolique de Benoît XVI au Portugal en mai dernier. Nous avons surtout retenu de ce voyage au Portugal le pèlerinage de Benoît XVI à Fatima. Mais n'oublions pas le très important discours donné à Lisbonne aux hommes de la culture, où il a parlé de son thème préféré, la vérité. Le conflit entre la tradition et le présent, disait-il, s'exprime dans la crise de la vérité. Ainsi, un peuple qui cesse de savoir quelle est sa vérité propre finit par se perdre dans le labyrinthe du temps et de l'histoire, privé des valeurs clairement établies et sans grand but clairement énoncé. La fidélité à l'homme exige la fidélité à la vérité, qui seule est la garantie de la liberté et de la possibilité d'un développement humain intégral. C'est pour cela que l'Église la recherche, qu'elle l'annonce sans relâche, et qu'elle la reconnaît partout où elle se manifeste. Cette mission de vérité est pour l'Église un impératif. Pour une société formée en majeure partie de catholiques et dont la culture a été profondément marquée par le christianisme, la tentative de trouver la vérité en dehors de Jésus-Christ s'avère dramatique. Pour nous, chrétiens, la vérité est divine. Elle est le Logos éternel qui a pris une expression humaine en Jésus-Christ. L'existence dans l'Église d'une ferme adhésion au caractère pérenne de la vérité, avec le respect pour les autres vérités ou avec la vérité des autres, est un apprentissage que l'Église elle-même est en train de faire. Dans ce dialogue respectueux, peuvent s'ouvrir de nouvelles portes pour la transmission de la vérité. En effet, dit Benoît XVI, le dialogue sans ambiguïté, respectueux de tous, est aujourd'hui une priorité dans le monde, priorité à laquelle l'Église n'entend pas se soustraire. N'ayez pas peur de vous confronter avec la source première et ultime de la beauté, de dialoguer avec les croyants, avec ceux qui, comme vous, se sentent en pèlerinage dans le monde et dans l'histoire vers la beauté infinie. L'Église considère comme sa mission prioritaire dans la culture actuelle de tenir éveillée la recherche de la vérité et donc celle de Dieu, de porter les personnes à regarder au-delà des choses qui passent et à se mettre à la recherche des fins dernières. Donc ce discours a été donné le 12 mai 2010. Que ces paroles de Benoît XVI, au terme de ce forum, nous donne un grand zèle missionnaire. Comme le dit le pape, notre mission prioritaire consiste dans la culture actuelle à tenir éveillée la recherche de la vérité et donc celle de Dieu, et d'aider nos contemporains à regarder au-delà des choses qui passent et à rechercher la vraie fin dernière de tout homme, Jésus-Christ, la vérité en personne. Dans son voyage apostolique en France, en septembre 2008, notre Saint-Père a abordé, mais sans insister, le thème de la vérité dans son discours aux Bernardins à Paris. Pour beaucoup, Dieu est vraiment devenu le grand inconnu. Malgré tout, aujourd'hui, l'actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Chercher Dieu et se laisser trouver par lui, cela n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. Une culture purement positiviste qui renverrait dans le domaine subjectif comme non scientifique la question concernant Dieu serait la capitulation de la raison. Le renoncement à ses possibilités les plus élevées et donc un échec de l'humanisme dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter demeure aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. Je ne sais pas si le discours aux Bernardins a été bien compris par les Français. Je pense qu'on ne l'a pas suffisamment approfondi. Et il faut le reprendre, car Benoît XVI a dit des choses très importantes. Et il a voulu justement montrer que, eh bien, que les moines étaient des chercheurs de Dieu et que nous devions, nous aussi, être des chercheurs de Dieu. Cette conclusion du Saint-Père est très importante pour notre mission en France. Nous devons aider nos contemporains à chercher Dieu et à se laisser trouver par lui. Comme Saint Augustin en a fait l'expérience. L'homme est fait pour Dieu, son cœur est sans repos tant qu'il ne repose en lui. C'est Saint Augustin. Le 14 avril 2010, Benoît XVI parlait à l'audience générale et il disait ceci au sujet des prêtres. Que doit faire le prêtre ? Il enseigne au nom du Christ présent. Il propose la vérité qu'est le Christ. Ce que dit de lui le Christ est valable pour chaque prêtre. Ma doctrine ne m'appartient pas. C'est la voix et la parole du Père. Ainsi, le prêtre doit agir sans proposer ses idées, mais ce qui vient de la bouche et du cœur du Christ, en présentant l'unique doctrine qui a donné forme à l'Église et à la vie éternelle. L'enseignement que le prêtre est appelé à offrir, les vérités de foi, il doit les vivre et les exprimer intensément. Souvent, la voix du prêtre semble résonner dans le désert, et c'est là sa force prophétique, celle de ne pas se laisser homologuer par les cultures ou mentalités dominantes. Ainsi montre-t-il la seule nouveauté en mesure de renouveler l'homme en profondeur, de lui montrer que le Christ est vivant et que Dieu nous est proche et qu'il agit au cœur du monde. Notre enseignant du pape, mais je n'ai pas relevé la date exacte. Vous le retrouverez à un endroit, mais je n'ai pas relevé la date, pardon. La vérité et l'amour sont deux visages du même don qui vient de Dieu et qui, grâce au ministère apostolique, est conservé dans l'Église et nous parvient jusqu'à aujourd'hui. À travers le service des apôtres et de leurs successeurs également, l'amour de Dieu Trinité nous rejoint pour nous communiquer la vérité qui nous libère. Tout ce que nous voyons dans l'Église naissante nous encourage à prier pour les successeurs des apôtres, pour tous les évêques et pour tous les successeurs de Pierre, afin qu'ils soient vraiment ensemble gardiens de la vérité et de la charité, afin qu'ils soient en ce sens vraiment des apôtres du Christ, pour que sa lumière, la lumière de la vérité et de la charité, ne s'éteigne jamais dans l'Église et dans le monde. Ce que notre pape dit du prêtre vaut aussi pour tous les baptisés, qui sont tous appelés à participer à l'évangélisation. Nous ne devons pas avoir peur de proposer la vérité qu'est le Christ. Ce ne sont pas nos idées qui sont importantes, mais la vérité qu'est le Christ dont nous devons témoigner. Le pape vient de donner un message important le mois dernier pour la dernière journée de la communication. Je ne peux pas tout vous le lire parce que ce serait trop long. Mais ce texte nous montre combien le pape est actuel et moderne et combien le pape est présent dans toutes les arènes du monde d'aujourd'hui et particulièrement dans le monde numérique. Et il dit des choses très intéressantes sur ce monde numérique, et particulièrement il est dit aux jeunes. Transmettre des informations signifie toujours plus souvent les introduire dans un réseau social où la connaissance est partagée dans le contexte d'échanges personnels. La claire distinction entre producteur et consommateur de l'information est relativisée et la communication tendrait à être non seulement un échange de données, mais toujours plus encore un partage. Cette dynamique a contribué à une appréciation renouvelée de la communication, considérée avant tout comme dialogue, échange, solidarité et création de relations positives. Nous sommes, c'est vrai, dans une charnière actuellement, hein, puisque il n'y a plus d'un certain côté le pouvoir de celui qui informe, puisque avec Internet, nous sommes tous informés et informateurs. Mais en même temps, il y a les dangers, il y a les limites. Benoît XVI le voit bien. La partialité de l'interaction, la tendance à communiquer seulement quelques aspects de son monde intérieur, le risque de tomber dans une sorte de construction de l'image de soi qui peut conduire à l'autocomplaisance. Mais en même temps, Benoît XVI encourage les jeunes à utiliser ces outils modernes pour être témoins de la vérité. Il faut que cette vérité, nous la fassions passer dans le web. Hein. Vous voyez, le pape est moderne, il parle même de social network. Bon, tout ça, ça me dépasse un petit peu. Je suis encore moins moderne que le pape. Donc, vous voyez, le pape nous dit, dans ces nouvelles technologies, eh bien, nous devons là aussi transmettre la vérité. J'invite surtout les jeunes à faire bon usage de leur présence dans l'arène numérique. Alors attention, parce qu'une arène, c'est le lieu où il y a le combat des... Bon, donc soyez du bon côté du combat. Je leur renouvelle mon rendez-vous à la prochaine journée mondiale de la jeunesse de Madrid, dont la préparation doit beaucoup aux avantages des nouvelles technologies. Oui. Et donc même le pape se sert de SMS, hein, se sert de toutes ces techniques pour transmettre la vérité. Les actes de Benoît XVI qui révèlent sa passion pour la vérité. Et ça, je crois que c'est très important à le souligner. D'abord, son action très énergique et sa grande souffrance par rapport au scandale de pédophilie. Nous gardons tous en mémoire les attaques médiatiques injustes contre Benoît XVI l'année dernière. Notre Saint-Père en a été beaucoup éprouvé. Mais ce qu'il a le plus éprouvé, c'est le péché des prêtres et des consacrés pédophiles. Il a utilisé cette expression qui en dit long dans l'avion qui le conduisait à Fatima, c'est terrifiant. Il est revenu plusieurs fois sur cette question, pour dire sa souffrance et montrer sa détermination. Sa lettre à l'Église d'Irlande et d'autres interventions sont suffisamment claires. Il veut une tolérance zéro et il agit pour la sainteté du sacerdoce. Il a consacré deux fois, comme je l'ai déjà dit, les prêtres au cœur immaculé de Marie l'année dernière. Le prêtre, comme tout baptisé, n'est pas un professeur de philosophie ou de théologie qui se contente de parler de la vérité. Il doit vivre dans la vérité. Il doit être vérité. Benoît XVI a été très sévère pour condamner la vie scandaleuse du Père Massiel, fondateur des Légionnaires du Christ. Aujourd'hui, aucun homme de bonne volonté ne peut dire que notre pape protège les prêtres et les consacrés scandaleux. Je crois que ça, c'est très important de le souligner. Deuxième point. Benoît XVI est dans la continuité de son grand prédécesseur Jean-Paul II. Au moment de son élection, des membres de l'Église ont dit que notre pape actuel n'était pas pleinement en accord avec des actes et des décisions de Jean-Paul II. Après 6 années de pontificat, personne ne peut plus tenir ce langage. Benoît XVI n'a pas peur de rencontrer les hommes politiques et les hommes de culture, quelle que soit leur tendance, et il va les rencontrer dans les lieux où ils ont l'habitude de se réunir. Il sait leur tenir des discours qui les touchent et les font réfléchir, et il témoigne toujours de la vérité. Il n'a pas peur de rencontrer les responsables religieux dans leur propre lieu de culte. Comme Jean-Paul II, il est entré dans des synagogues. Il est entré dans des mosquées. Il n'a pas peur de convoquer tous ceux qui prient Dieu à Assise en octobre prochain, car il considère que l'acte de Jean-Paul II en 1986 a été un acte réellement prophétique. La prière pour la paix, même si elle ne peut pas être aujourd'hui encore une prière commune, permet aux hommes religieux de se respecter et de travailler à la vraie paix. Notre Saint-Père n'a pas peur de rencontrer, chaque fois qu'il le peut, nos frères chrétiens, orthodoxes et protestants. Il ne transige jamais sur la vérité, mais il agit avec beaucoup de charité, car la vérité historique nous oblige à constater que nos frères et sœurs qui ne sont pas aujourd'hui en pleine communion avec nous ne sont pas responsables de la division actuelle des chrétiens. L'œcuménisme et le dialogue interreligieux demandent beaucoup de patience, de persévérance et de confiance et d'amour, mais ils ne sont possibles qu'à une seule condition, que tous soient en recherche de la vérité. Troisième point, son action de prophète de la doctrine sociale de l'Église. Dans cette action, il est évident que notre pape, à la suite de ses prédécesseurs, n'est mu que par la passion de la vérité. Sa dernière encyclique a été admirée par tous les hommes politiques de toutes tendances confondues. Caritas in veritate, l'amour dans la vérité. Notre pape ne prétend pas donner des leçons aux responsables politiques. Il est conscient, comme le disait ce matin, de la complexité de la crise économique. Il n'a pas de recette magique à donner. Il renvoie les responsables politiques et sociaux à leur grâce d'État, à leurs compétences. Il se contente de donner les principes de la doctrine sociale de l'Église qui sont fondés sur la dignité de la personne humaine et son fondement ultime qui est Dieu. Le titre de son encyclique est tout un programme, le programme de vie et de passion de Benoît XVI, l'amour dans la vérité. Quatrième point, le livre Lumière du monde. Et je trouve que ce livre est très éclairant. Benoît XVI, dans ce livre, donc ce n'est pas lui qui l'a écrit, hein, c'est bien sûr le journaliste allemand qui l'a écrit d'une façon très brillante. Le journaliste a fait le très gros du travail. Benoît XVI dit avec humilité et vérité qu'il n'est pas infaillible dans la vie de tous les jours. Le pape est infaillible, dit-il, lorsqu'il enseigne les vérités de foi et de morale, qui sont tout simplement les vérités de l'Église universelle, lorsqu'il transmet le trésor de la révélation reçue de Jésus. Mais en dehors de ces enseignements donnés avec autorité, notre Saint-Père agit en utilisant sa raison, en priant et en demandant conseil à ses conseillers. Il est très éclairant de constater dans ce livre combien ses pensées ne sont pas tranchées en ce qui concerne l'avenir des légionnaires du Christ, par exemple, mais combien il a le souci de permettre à tous les membres de cette communauté de pouvoir servir Jésus et l'Église dans la vérité. Autre point. Il est important de dire que l'image que l'on avait répandue sur le soi-disant Panzer cardinal était fausse. Et notre pape actuel a dû beaucoup souffrir de cette fausse image qu'on avait répandue sur lui. Mais comme il était au service de la vérité, pour lui, ce qui était important, c'est de toujours servir la vérité. Le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi a toujours été un homme doux et accueillant. Il n'a jamais condamné une doctrine erronée ou fausse sans d'abord avoir écouté avec patience, avec amour, l'auteur de cette doctrine erronée ou fausse, et sans lui avoir demandé de corriger telle ou telle erreur. Ce n'est qu'après un long dialogue, après l'obstination de l'auteur, que des condamnations ont eu lieu. Mais il faut bien reconnaître que ces condamnations ont été très peu nombreuses. Benoît XVI a toujours vécu le dicton « errare humanum est, perseverare diabolicum est ». Donc, ça ne devrait pas être utile de vous le traduire, mais je vous le traduis. « Errare humanum est », se tromper est humain, persévérer dans l'erreur est diabolique. Donc tout le monde peut se tromper. Et donc notre pape a toujours eu un très grand respect pour les personnes qui se trompaient. Tous ceux qui sont entrés en dialogue avec lui sont obligés de le reconnaître. Comme je vous l'ai dit ce matin, après son voyage historique en Angleterre, tous ont témoigné qu'ils avaient découvert en Benoît XVI un ami et un père, et que notre pape n'était pas du tout cet homme dur et intransigeant qu'on leur avait représenté. Le courage de Benoît XVI pour annoncer la vérité sans tenir compte des modes. Et là aussi, je trouve que c'est important. Benoît XVI est libre. Voilà, il est libre. Hein. Jusque dans la façon de se vêtir, mais comme là aussi, il est obligé de tenir compte des réactions. Hein. Il y a un temps où il faisait froid, et bien, il a tout simplement repris un chapeau rouge qui avait servi au pape quand il faisait froid. Mais comme il a vu qu'après ça a fait toute une histoire pour dire ça y est, il est allé ressortir le chapeau de Léon XIII ou je ne sais pas trop quoi, et bien donc il a évité de le reprendre. Mais tout simplement parce qu'il est libre, puis c'est tout. Hein, s'il veut reprendre. Voilà, donc nous avons un pape qui se moque des modes. Voilà. Hein, parce que les modes passent, mais la vérité demeure. Donc sous le pontificat de Jean-Paul II, le cardinal préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi a toujours été l'objet des critiques. Chaque fois qu'il fallait rappeler avec fermeté la doctrine de la foi, c'était Joseph Ratzinger qui était au cœur du combat. Alors je ne veux pas dire que Jean-Paul II a mis son préfet, on peut dire, comme pour l'envoyer au charbon. Hein. Bon, mais d'un certain côté, c'est ce qui a permis d'en faire un pape aussi, hein, parce que les cardinaux ont eu confiance en lui. Voilà. Joseph Ratzinger n'a jamais reculé pour obéir aux demandes de Jean-Paul II. Au cœur de l'an 2000, Jean-Paul II a voulu que Joseph Ratzinger rappelle la vérité sur le mystère du Christ et de l'Église, dans cette instruction appelée « Dominus Iesus ». Ce texte « Dominus Iesus » a valu à Joseph Ratzinger des critiques incroyables. Et des critiques incroyables qui ne sont pas venues de l'extérieur de l'Église, mais qui sont venues de l'intérieur, de théologiens qui aujourd'hui enseignent dans les universités catholiques. Alors on se demande pourquoi d'ailleurs ces critiques. Benoît XVI a tout simplement rappelé que Jésus était la personne divine du Fils de Dieu, hein, et qu'il était le seul sauveur, et que le Verbe de Dieu ne s'est pas incarné plusieurs fois dans plusieurs hommes religieux, comme certains voudraient aujourd'hui nous le faire croire. Le Verbe de Dieu ne s'est incarné qu'une seule fois en Jésus. Et Joseph Ratzinger a rappelé l'unicité et l'unité de l'Église. Et rappeler aussi que l'Église fondée par Jésus, elle subsiste dans l'Église catholique. Alors pourquoi ces critiques contre le pape, contre Joseph Ratzinger à ce moment-là? Ça montre justement qu'il y a une certaine crise dans l'Église qui n'est pas encore surmontée. Joseph Ratzinger n'a pas reculé pour la rédaction du catéchisme de l'Église catholique et pour le compendium. Et là aussi, quelle tristesse de voir que le catéchisme de l'Église catholique n'est pas encore transmis dans la catéchèse comme cela devrait être. Joseph Ratzinger n'a pas reculé pour rappeler la vérité sur l'embryon humain. Et en tant que pape, il n'a pas reculé pour demander à tous les évêques du monde, au début du dernier avant, une veillée pour la vie. Et là aussi, voyez, c'est une étape très importante qu'on est en train de réaliser. Parce que dans tous les diocèses du monde, bon gré, mal gré, il y a eu des veillées pour la vie. Voilà. Hein? Et donc, vous voyez aussi le dernier cadeau qu'il nous a fait. Hein? Il y avait des évêques qui avaient peur de venir marcher pour la vie à Paris le mois dernier, hein, en se disant oui, mais on ne sait pas. Ben maintenant, on sait, Benoît XVI est pour. Voilà. Et il a béni tous ceux qui participaient à la marche pour la vie. Comme Jean-Paul II, il ne reculera pas pour rappeler la vérité sur la famille dans le plan de Dieu. Et pour dire un dernier mot sur Benoît XVI, nous pouvons l'appeler le collaborateur de la vérité dans la douceur de l'amour. Je pense que le démon a très peur chaque fois que Benoît XVI va faire un voyage. Parce que finalement, quand il est en contact avec les personnes, on ne peut plus défigurer sa personnalité. Il est là. Donc, sa douceur dans ses paroles, fait fondre la glace. Hein. Oui, donc c'est là où on voit vraiment, c'est le collaborateur de la vérité dans la douceur de l'amour. On pourrait bien donner d'autres témoignages encore, mais il faut s'arrêter. Hein? Donc, comme on dit dans philosophie, à un moment donné, il faut s'arrêter. Bon, alors on conclut. Notre forum est vraiment un thème d'actualité. Il faut aider nos contemporains à retrouver la vraie nature de la vérité. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le fruit du hasard et de la nécessité, nous l'avons dit, mais il faut le répéter. L'homme n'est pas le produit de l'évolution aveugle. Les penseurs grecs avaient bien compris cela. Le monde est intelligible, il est animé par le logos divin. C'est cette animation par le logos qui permet d'affirmer qu'il n'y a pas de contradiction entre foi et raison. Le logos qui éclaire la raison humaine est le même logos qui s'est incarné en Jésus. Toute la pensée de Benoît XVI trouve là son fondement. Il ne craint donc pas le dialogue et les controverses universitaires, à la condition toujours que l'on soit animé par la recherche de la vérité. Si l'on n'est pas en recherche de la vérité, on risque de devenir esclave d'une idéologie et dictateur de cette idéologie que l'on veut imposer aux autres. Ce forum a été vécu, comme les deux précédents, dans un esprit de famille, et nous en rendons grâce à Dieu. Nous vous invitons, pour ceux qui n'ont pas participé aux deux premiers forums, à prendre connaissance des actes qui sont importants sur l'urgence de l'éducation et celui de l'année dernière sur le rapport liberté-loi. Et cela vous permettra de mieux comprendre la complémentarité entre nos trois forums et vous donnera l'envie de participer à la session de ce prochain mois de juillet en ce même foyer de sens, sur la très importante encyclique de Jean-Paul II, Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité. Comprenons-le, la vérité n'est pas seulement la vérité logique d'une proposition, l'homme est un animal raisonnable. La vérité n'est pas seulement la vérité de notre jugement, cet être de mon expérience est bien un homme et non un animal. La vérité n'est pas seulement la vérité ontologique, l'homme est une personne humaine possédant un corps et une âme spirituelle dans une unité substantielle. La vérité est objective. Elle me précède. Elle est en tout être qui se présente à moi et dont je peux par mon intelligence abstraire l'intelligibilité. Avec saint Augustin, cette vérité, je dois la poursuivre avec passion, car mon intelligence a soif de connaître. Mais la connaissance intellectuelle ne me suffit pas. La vérité n'est pas une idée, elle est un être réel, elle est Dieu. Gandhi et Benoît XVI se rejoignent sur ce fondement, dont nous devons être les témoins dans tous les aréopages de l'humanité moderne. L'urgence des urgences est le retour de Dieu dans le cœur et l'esprit des hommes, mais aussi dans les sociétés, car Dieu est le créateur de tous. Il est amour, vérité, bonté et beauté. La personne humaine ne sera comblée que lorsqu'elle sera totalement immergée en Dieu et qu'elle connaîtra le bonheur éternel. La conscience morale qui me commande de faire le bien et d'éviter le mal est donc bien un nouveau don de Dieu pour ne pas me tromper de route sur le chemin de la vérité, sur le chemin du ciel. La vérité qu'est le Verbe de Dieu incarné, Jésus, appelle tous les hommes, m'appelle, moi, personnellement, à me nourrir de sa sagesse, à m'ouvrir à lui, qui est voie, vérité et vie. Soyons donc les témoins enthousiastes de ce mystère et demandons à Jésus de faire de nous les témoins de la splendeur de la vérité qu'il est éternellement.